La ligne de production des moteurs OJ conçue pour les avions de chasse Kosar iraniens sera inaugurée ce jeudi en présence du président iranien. Les FDS ont kidnappé des femmes dans le camp à Lahoul dans la banlieue est de Rasaki, en Syrie. Et le Conseil de sécurité appelle les mutinés maliens à regagner sans délai leur caserne. C'était le titre. En voici le journal. Le ministre iranien de la Défense a annoncé que le jeudi 20 août, le président Hassan Rouhani inaugurait la ligne de production des moteurs OJ conçus pour les avions de chasse Kosar, ainsi que de nouveaux produits liés aux missiles balistiques. Le général de brigade Amir Hatami a déclaré que le mercredi 19 août, il avait présenté un rapport au Conseil des ministres au sujet de la situation défensive du pays et des activités de l'industrie de défense. Les prototypes du moteur OJ conçu pour les avions de chasse Kosar ont été déjà testés avec succès et jeudi, le président en inaugura la ligne de production, a-t-il ajouté. Le ministre de la Défense a ajouté qu'un nouveau moteur à turboréacteur à double flux conçu pour des drones sera également dévoilé en présence du président. Il s'agit, selon le général Hatami, d'un moteur de la quatrième génération fabriqué pour la première fois en Iran. Il a déclaré que ce moteur sera installé bientôt sur divers types de drones également de fabrication nationale. Le général Hatami a déclaré que ce nouveau type de turboréacteur à double flux est installé sur les drones les plus sophistiqués du monde et que son usage pour équiper les drones iraniens augmenterait considérablement la puissance et les capacités de ces drones qui passeront ainsi de la catégorie de la troisième génération à celle de la quatrième génération. S'agissant des équipements des forces terrestres, le ministre de la Défense a déclaré aux journalistes que les industries militaires iraniennes produisaient actuellement plus de 1700 articles liés au combat terrestre. Dans ce domaine, nous produisons près de 100% du matériel dont ont besoin nos forces terrestres, a-t-il indiqué. La ligne de production des chars d'assaut Karar vient d'être optimisée et nous sommes en train de concevoir et de produire de nouvelles mitrailleuses qui peuvent être installées sur nos navires militaires, a-t-il ajouté. Le ministre de la Défense a déclaré que les industries de défense avaient accédé à la technologie la plus avancée de la fabrication d'équipements militaires, de sorte qu'elles sont parfaitement en mesure d'adapter leur ligne de production aux commandes de différentes unités de combat. En Irak, le chef du bloc parlementaire Badr, Shakir al-Kabi, a révélé ce mercredi l'engagement du premier ministre Mustafa al-Kazemi de soulever le dossier du retrait des forces américaines d'Irak lors de sa visite à Washington. Shakir al-Kabi a mis en garde contre les menaces américaines de libérer des terroristes Daesh en Syrie et de les transférer ensuite en Irak dans le cas où le premier ministre irakien exigerait la fin de la présence militaire américaine. Le chef du bloc parlementaire Badr a déclaré dans un communiqué télévisé cité par le site d'information irakien Al-Maluma que la coalition parlementaire Al-Fateh a appelé le premier ministre Al-Kazemi à soulever la question de l'expulsion des forces américaines d'Irak lors de sa visite à Washington. D'autant plus que lors de sa rencontre avec les membres de la coalition Al-Fatah, le premier ministre s'est engagé à travailler pour expulser les forces américaines d'Irak. Le Badr et la coalition Al-Fatah ne sont pas seuls à formuler cette demande au premier ministre Al-Kazemi, car à l'approche de la visite du premier ministre irakien, l'opinion publique et les formations politiques du pays insistent toutes sur la nécessité du retrait total des forces militaires américaines. Ce retrait américain a été demandé officiellement par le Parlement après l'assassinat en janvier par les forces militaires américaines du général Rassem Soleimani, commandant de la force ROTS, et d'Abu Mandes, commandant adjoint des Ashtar Shabi à Bagdad, alors que le général Soleimani était en visite officielle à Bagdad à l'invitation du gouvernement irakien. En Syrie, les FTS, soutenus par l'occupation américaine, ont mené une campagne d'incursion dans le camp d'Al-Hol, dans la banlieue est de Rasaki, et ont kidnappé un certain nombre de femmes. Cité par le correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, des sources locales ont indiqué qu'un groupe de la milice FTS avait envahi le camp Al-Hol, qui connaît un état de détérioration continue des conditions de vie, et kidnappé 5 femmes avant de les conduire manu militari à une destination inconnue. Des sources civiles ont indiqué, par ailleurs, aux correspondants de Sana qu'une des FTS avait été tuée par des personnes inconnues qui ont ouvert le feu sur lui au moment où il se trouvait dans le camp d'Al-Hol. Ailleurs en Syrie, précisément à Idlib, les groupes terroristes soutenus par le régime turc ont continué les opérations de fuite illégales pour voler les antiquités dans la banlieue sud-est de cette ville, et ce dans le cadre de leur plan d'estomper l'identité historique syrienne. Des sources civiles et médiatiques ont indiqué que le réseau du front al-Nosra lié au régime turc avait fait entrer des véhicules et des détecteurs de métaux pour faire des fuites illégales dans le site antique de Tel Ranam, dans la zone de Jisr al-Shorour, dans la banlieue sud-ouest d'Idlib, afin de les voler et de les trafiquer vers la Turquie. Les sources ont ajouté que les terroristes du front al-Nosra avaient également enlevé des habitants de la région pour les obliger à coopérer avec eux. Selon ces mêmes sources, lors des fuites, le site antique de Tel Ranam a été détruit. Dans une déclaration donnée à Sanaa, le directeur général des antiquités et des musées, Mahmoud Hamoud, a indiqué que tous les sites archéologiques dans les zones contrôlées par les réseaux terroristes à Idlib et à Afrin avaient fait la cible des opérations de fuite illégales pour détruire le patrimoine syrien. Ouvre maintenant la page de l'actualité africaine à la suite d'une réunion d'urgence qui s'est tenue mercredi 19 août. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a appelé les soldats mutinés de la junte malienne à regagner sans délai leurs casernes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé mardi soir par un coup d'État fomenté par une partie de l'armée. Ces militaires assurent vouloir mettre en place une transition politique civile. Assimi Goïta, un colonel de l'armée malienne, s'est présenté mercredi comme le nouvel homme fort à Bamako. Il a estimé que son pays se trouvait dans une situation de crise sociopolitique, sécuritaire et n'avait plus le droit à l'erreur. La junte désormais au pouvoir à Bamako a également appelé les Maliens à vaquer librement à leur occupation et à reprendre sainement leurs activités, réclamant également l'arrêt du vandalisme. Et le mouvement de contestation qui réclamait depuis des mois le départ du président malien a appelé à fêter sa démission vendredi. Malgré les appels au calme et des déclarations qui se veulent rassurantes, les condamnations se sont multipliées mercredi contre ce coup d'État. L'Union africaine a suspendu le Mali jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel et demandé la libération du président Boubacar Keïta, du premier ministre et des autres responsables du gouvernement arrêtés par la force, par l'armée. Quelques heures après l'annonce par M. Keïta de sa décision de quitter toutes ses fonctions, les militaires qui ont pris le pouvoir ont assuré dans la nuit de mardi à mercredi vouloir mettre en place une transition politique civile, devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Au Nigeria, des centaines de civils ont été pris en otage par les terroristes du présumé État islamique actif dans cette région. Les terroristes, membres présumés de l'État islamique dans la région, ont pris le contrôle de la ville de Kukawa. Des centaines de civils ont été pris en otage dans le nord-est du Nigeria par des membres du présumé État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, indique le mercredi des sources locales et sécuritaires. Les terroristes ont pris le contrôle de Kukawa dans la région du lac Tchad, mardi soir, a expliqué Baba Koura Kolo, chef d'une milice civile. Là, ils ont pris en otage des centaines de personnes, tout juste retour en ville après 2 ans loin de leur foyer à cause des violences qui ravagent la région du lac Tchad et notamment l'état du Borno dans le nord-est du Nigeria. Un chef local qui était parmi eux et qui est parvenu à s'échapper a raconté qu'ils étaient rentrés début août dans l'espoir de pouvoir enfin cultiver leurs terres, mais ont aussitôt fini entre les mains des insurgés. Nous ne savons pas ce qu'ils vont faire d'eux, mais nous espérons qu'ils ne leur feront aucun mal, à confier solidaires communautaires qui préfèrent garder l'anonymat. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aucun accord de paix ne pourra légitimer Israël. C'est le titre du commentaire politique. Signer un accord de paix avec le régime sioniste, c'est le reconnaître officiellement. Or, aucun accord de paix ne pourra jamais légitimer Israël. Et pourtant, les Émirats arabes unis ont choisi de poignarder les Palestiniens dans le dos. Ce qui s'est passé en 1967, durant la guerre des Six Jours, est une occupation pure et dure d'un point de vue juridique. D'autant plus que les résolutions 242 et 478 du Conseil de sécurité contraignent Israël de mettre fin à cette occupation. Donc, annexer la Cisjordanie aux territoires occupés est une véritable ombre au tableau pour un Benjamin Netanyahou qui est de plus en plus accablé par des mises en garde successives et perpétuelles lancées par les groupes de résistance, la Jordanie et les pays européens. Et c'est pourquoi le projet voué à l'échec, Netanyahou l'a vendu aux Émirats arabes unis en échange d'être reconnu par Abu Dhabi. Les analystes politiques évoquent 5 effets de cette erreur stratégique sur les Émirats arabes unis. Jusqu'ici, la médiation de l'Iran a empêché une véritable attaque d'Ansar Allah du Yémen contre les Émirats arabes unis. Mais après la signature de l'accord de paix entre Tel Aviv et Abu Dhabi, il est fort probable que les Émirats, tout comme l'Arabie saoudite, soient pris pour cible des missiles et des drones d'Ansar Allah. Dubaï est devenue la ville business du commerce par excellence du Golfe Persique et aussi une importante destination touristique de l'Asie de l'Ouest. Le moindre incident sécuritaire dans cette ville risquerait de porter atteinte au prestige de ce port commercial. Autrement dit, la reconnaissance par les Émirats arabes unis du régime sioniste constitue un code d'insécurité pour Dubaï. Les Émirats arabes unis ne peuvent plus se présenter comme un bon voisin pour l'Iran et celui-ci les traitera désormais avec scepticisme. D'autant plus que l'Iran a amplement réduit sa dépendance sur le plan commercial à Dubaï. L'accord de paix israélo-émirati n'était pas un tournant car il n'a rien changé en ce qui concerne la légitimité d'Israël. Le traité de paix israélo-jordanien, les accords d'Oslo et tous les autres accords de paix qui ont été signés avec les Israéliens n'ont rien changé à la légitimité dont est dépourvu Israël. Et enfin, pour les élections du mois de novembre, le président américain Donald Trump a besoin de quoi faire étalage. Donc, les accords de ce genre ne font pas état d'un succès ou d'une évolution dans les relations entre les Arabes et Israël, mais plutôt d'une astuce électorale de Donald Trump. Et l'analyste conclut ainsi. Ce qui s'est passé entre Abu Dhabi et Tel Aviv n'est pas une évolution stratégique, mais plutôt une erreur stratégique commise par Abu Dhabi, une erreur qui a trahi le vrai caractère des autorités des monarchies arabes du Golfe Persique et qui a poussé plus que jamais les groupes de résistance palestinienne vers l'Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais.